Le Lys dans la vallée, chapitre 5. Après les traverses de son séjour à l'étranger, M. de Mortsauf, satisfait d'entrevoir un clément avenir, eut comme une convalescence d'âme. Il respira dans cette vallée les enivrantes odeurs d'une espérance fleurie. Forcé de songer à sa fortune, il se jeta dans les préparatifs de son entreprise agronomique et commença par goûter quelques joies. Mais la naissance de Jacques fut un coup de foudre qui ruina le présent et l'avenir. Le médecin condamna le nouveau-né. Le comte cacha soigneusement cet arrêt à la mère. Puis il consulta pour lui-même et reçut de désespérantes réponses que confirma la naissance de Madeleine. Ces deux événements, une sorte de certitude intérieure sur la fatale sentence, augmentèrent les dispositions maladives de l'immigré. Son nom à jamais éteint, une jeune femme pure, irréprochable, malheureuse à ses côtés, vouée aux angoisses de la maternité sans en avoir les plaisirs. Cet humus de son ancienne vie, d'où germaient de nouvelles souffrances, lui tomba sur le cœur et paracheva sa destruction. La comtesse devina le passé par le présent et lut dans l'avenir. Quoique rien ne soit plus difficile que de rendre heureux un homme qui se sent fautif, la comtesse tenta cette entreprise digne d'un ange. En un jour, elle devint stoïque. Après être descendue dans l'abîme d'où elle put voir encore le ciel, elle se voua pour un seul homme, à la mission qu'embrasse la sœur de charité pour tous. Et afin de le réconcilier avec lui-même, elle lui pardonna ce qu'il ne se pardonnait pas. Le comte devint avare. Elle accepta les privations imposées. Il avait la crainte d'être trompé, comme l'ont tous ceux qui n'ont connu la vie du monde que pour en rapporter des répugnances. Elle resta dans la solitude et se plia sans murmure à ses défiances. Elle employa les ruses de la femme à lui faire vouloir ce qui était bien. Il se croyait ainsi des idées et goûtait chez lui les plaisirs de la supériorité qu'il n'aurait eu nulle part. Puis, après s'être avancée dans la voie du mariage, elle se résolut à ne jamais sortir de Clochegourde, en reconnaissant chez le comte une âme hystérique dont les écarts pouvaient, dans un pays de malice et de commérage, nuire à ses enfants. Aussi, personne ne soupçonnait-il l'incapacité réelle de Monsieur de Mortsauf. Elle avait paré ses ruines d'un épais manteau de lierre. Le caractère variable, non pas mécontent, mais malcontent du comte, rencontra donc chez sa femme une terre douce et facile, où il s'étendit en y sentant ses secrètes douleurs, amollies par la fraîcheur des baumes. Cette historique est la plus simple expression des discours arrachés à M. de Chessel par un secret dépit. Sa connaissance du monde lui avait fait entrevoir quelques-uns des mystères ensevelis à Clochegourde. Mais si par sa sublime attitude, Madame de Mortsauf trompait le monde, elle ne put tromper les sens intelligents de l'amour. Quand je me trouvais dans ma petite chambre, la prescience de la vérité me fit bondir dans mon lit. Je ne supportais pas d'être à Frapelle lorsque je pouvais voir les fenêtres de sa chambre. Je m'habillai, descendis à pas de loup et sortis du château par la porte d'une tour où se trouvait un escalier en colimaçon. Le froid de la nuit me rasséréna. Je passai l'Indre sur le pont du Moulin Rouge et j'arrivai dans la bienheureuse toux en face de Clochegourde où brillait une lumière à la dernière fenêtre du côté d'Azay. Je retrouvais mes anciennes contemplations, mais paisibles, mais entremêlées par les roulades du chantre des nuits amoureuses et par la note unique du rossignol des eaux. Il s'éveillait en moi des idées qui glissaient comme des fantômes en enlevant les crêpes qui jusqu'alors m'avaient dérobé mon bel avenir. L'âme et l'essence étaient également charmées. Avec quelle violence mes désirs montèrent jusqu'à elle. Combien de fois je me dis comme un insensé son refrain, l'aurais-je? Si durant les jours précédents l'univers s'était agrandi pour moi dans une seule nuit, il eut un centre. À elle se rattachèrent mes vouloirs et mes ambitions. Je souhaitais d'être tout pour elle, afin de refaire et de remplir son cœur déchiré. Belle fut cette nuit passée sous ses fenêtres, au milieu du murmure des eaux passant à travers les vannes des moulins et entrecoupée par la voix des heures sonnées au clocher de Saché. Pendant cette nuit baignée de lumière, où cette fleur sidérale m'éclaira la vie, je lui fiançai mon âme avec la foi du pauvre chevalier castillan de qui nous nous moquons dans Cervantes et par laquelle nous commençons l'amour. À la première lueur dans le ciel, au premier cri d'oiseau, je me sauvai dans le parc de Frapesle. Je ne fus aperçu par aucun homme de la campagne. Personne ne soupçonna mon escapade et je dormis jusqu'au moment où la cloche annonça le déjeuner. Malgré la chaleur après le déjeuner, je descendis dans la prairie afin d'aller revoir l'Indre et ses îles, la vallée, les coteaux, dont je parus un admirateur passionné. Mais après cette vélocité de pied qui défie celle du cheval échappé, je retrouvai mon bateau, mes saules et mon clochegourde. Tout y était silencieux et frémissant comme est la campagne à midi. Les feuillages immobiles se découpaient nettement sur le fond bleu du ciel. Les insectes qui vivent de lumière, demoiselles vertes, cantharides, volaient à leurs frênes, à leurs roseaux. Les troupeaux ruminaient à l'ombre, les terres rouges de la vigne brûlaient et les couleuvres glissaient le long des talus. Quel changement dans ce paysage si frais et si coquet avant mon sommeil. Tout à coup, je sautai hors de la barque et remontai le chemin pour tourner autour de Clochegourde, d'où je croyais avoir vu sortir le comte. Je ne me trompais point. Il allait le long d'une haie et gagnait sans doute une porte donnant sur le chemin d'Azay qui longe la rivière. « Comment vous portez-vous ce matin, monsieur le comte ?» Il me regarda d'un air heureux. Il ne s'entendait pas souvent nommer ainsi. « Bien, dit-il, mais vous aimez donc la campagne pour vous promener par cette chaleur ? Ne m'a-t-on pas envoyé ici pour vivre en plein air ? Eh bien, voulez-vous venir voir couper mes seigles ?»« Mais volontiers, lui dis-je. Je suis, je vous l'avoue, d'une ignorance incroyable. » Je ne distingue pas le seigle du blé, ni le peuplier du tremble. Je ne sais rien des cultures, ni des différentes manières d'exploiter une terre. « Eh bien, venez, » dit-il joyeusement en revenant sur ses pas. « Entrez par la petite porte d'en haut. » Il remonta le long de sa haie en dedans, moi en dehors. « Vous n'apprendrez rien chez monsieur de Chessel, » me dit-il. Il est trop grand seigneur pour s'occuper d'autre chose que de recevoir des comptes de son régisseur. Il me montra donc ses cours et ses bâtiments, les jardins d'agrément, les vergers et les potagers. Enfin, il me mena vers cette longue allée d'acacias et de vernis du Japon, bordée par la rivière, où j'aperçus à l'autre bout, sur un banc, Madame de Mortsauf, occupée avec ses deux enfants. Une femme est bien belle sous ce menu feuillage tremblant et découpé. Surprise peut-être de mon naïf empressement, elle ne se dérangea pas, sachant bien que nous irions à elle. Le comte me fit admirer la vue de la vallée, qui de là présente un aspect tout différent de ceux qu'elle avait déroulés selon les hauteurs où nous avions passé. Là, vous eussiez dit, d'un petit coin de la Suisse, la prairie. La prairie, sillonnée par les ruisseaux qui se jettent dans l'Indre, se découvre dans sa longueur et se perd en lointain vaporeux. Du côté de Montbazon, l'œil aperçoit une immense étendue verte et sur tous les autres points se trouve arrêté par des collines, par des masses d'arbres, par des rochers. Nous allongeâmes le pas pour aller saluer Madame de Mortsauf, qui laissa tomber tout à coup le livre où lisait Madeleine et prit sur ses genoux Jacques en proie à une toux convulsive. « Eh bien, qui est-il ? » s'écria le comte en devenant blême. « Il a mal à la gorge, » répondit la mère, qui semblait ne pas me voir. « Ce ne sera rien. » Elle lui tenait à la fois la tête et le dos, et de ses yeux sortaient deux rayons qui versaient la vie à cette pauvre faible créature. « Vous êtes d'une incroyable imprudence, » reprit le comte avec aigreur. Vous l'exposez au froid de la rivière et l'asseyez sur un banc de pierre. « Mais mon père, le banc brûle !» s'écria Madeleine. « Ils étouffaient là-haut, » dit la comtesse. Les femmes veulent toujours avoir raison, dit-il en me regardant. Pour éviter de l'approuver ou de l'improuver par mon regard, je contemplais Jacques qui se plaignait de souffrir dans la gorge et que sa mère emporta. Avant de nous quitter, elle put entendre son mari. « Quand on fait des enfants si mal portants, on devrait savoir les soigner, dit-il. » Parole profondément injuste, mais son amour-propre le poussait à se justifier aux dépens de sa femme. La comtesse volait en montant les rampes et les perrons. Je la vis disparaissant par la porte-fenêtre. Monsieur de Morceau s'était assis sur le banc, la tête inclinée, songeur. Ma situation devenait intolérable. Il ne me regardait ni ne me parlait. Adieu cette promenade pendant laquelle je comptais me mettre si bien dans son esprit. Je ne me souviens pas d'avoir passé dans ma vie un quart d'heure plus horrible que celui-là. Je suais à grosses gouttes, me disant « M'en irai-je ? Ne m'en irai-je pas ?» Combien de pensées tristes s'élevèrent en lui pour lui faire oublier d'aller savoir comment se trouvait Jacques. Il se leva brusquement et vint auprès de moi. Nous nous retournâmes pour regarder la riante vallée. « Nous remettrons à un autre jour notre promenade, monsieur le comte, lui dis-je alors avec douceur. « Sortons, répondit-il. Je suis malheureusement habitué à voir souvent de semblables crises, moi qui donnerais ma vie, sans aucun regret, pour conserver celle de cet enfant. « Jacques va mieux, il dort, mon ami, dit la voix d'or. Madame de Morceau se montra soudain au bout de l'allée. Elle arriva sans fiel, sans amertume, et me rendit mon salut. « Je vois avec plaisir, me dit-elle, que vous aimez Clochegourde. « Voulez-vous, ma chère, que je monte à cheval et que j'aille chercher Monsieur Deslandes ?» lui dit-il en témoignant le désir de se faire pardonner son injustice. « Ne vous tourmentez point, dit-elle. Jacques n'a pas dormi cette nuit, voilà tout. Cet enfant est très nerveux. Il a fait un vilain rêve et j'ai passé tout le temps à lui conter des histoires pour le rendormir. Sa toux est purement nerveuse. Je l'ai calmée avec une pastille de gomme et le sommeil l'a gagné. « Pauvre femme, dit-il en lui prenant la main dans les siennes et lui jetant un regard mouillé, je n'en savais rien. À quoi bon vous inquiéter pour des riens? Allez à vos seigles. Vous savez, si vous n'êtes pas là, les métayers laisseront les glaneuses étrangères au bourg entrer dans le champ avant que les gerbes n'en soient enlevées. « Je vais faire mon premier cours d'agriculture, madame, lui dis-je. « Vous êtes à bonne école, répondit-elle en montrant le comte, de qui la bouche se contracta pour exprimer ce sourire de contentement que l'on nomme familièrement « faire la bouche en cœur ». Deux mois après seulement, je sus qu'elle avait passé cette nuit en d'horrible anxiété. Elle avait craint que son fils n'eût le croup. Et moi, j'étais dans ce bateau, mollement bercé par des pensées d'amour, imaginant que de sa fenêtre, elle me verrait adorant la lueur de cette bougie qui éclairait alors son front labouré par de mortelles alarmes. Le croup régnait à Tours et y faisait d'affreux ravages. Quand nous fûmes à la porte, le comte me dit d'une voix émue « Madame de Morceauf est un ange ». Ce mot me fit chanceler. Je ne connaissais encore que superficiellement cette famille et le remords si naturel dont est saisie une âme jeune en pareille occasion me cria « De quel droit troublerais-tu cette paix profonde ?» Heureux de rencontrer pour auditeur un jeune homme sur lequel il pouvait remporter de faciles triomphes, le comte me parla de l'avenir que le retour des Bourbons préparait à la France. Nous eûmes une conversation vagabonde dans laquelle j'entendis de vrais enfantillages qui me surprirent étrangement. Il ignorait des faits d'une évidence géométrique. Il avait peur des gens instruits. Les supériorités, il les niait. Il se moquait, peut-être avec raison, des progrès. Enfin, je reconnus en lui une grande quantité de fibres douloureuses qui obligeaient à prendre tant de précautions pour ne point le blesser qu'une conversation suivie devenait un travail d'esprit. Quand j'eus, pour ainsi dire, palpé ses défauts, je m'y pliais avec autant de souplesse qu'en mettait la comtesse à les caresser. À une autre époque de ma vie, je l'eusse indubitablement froissé, mais timide comme un enfant, croyant ne rien savoir, ou croyant que les hommes faits savaient tout, je m'ébahissais de merveilles obtenues à Clochegourde par ce patient agriculteur. J'écoutais ses plans avec admiration, enfin, flatterie involontaire qui me valut la bienveillance du vieux gentilhomme, j'enviais cette jolie terre, sa position, ce paradis terrestre, en le mettant bien au-dessus de Frapelle. « Frapelle, lui dis-je, est une massive argenterie, mais Clochegourde est un écran de pierres précieuses. » Phrase qu'il répéta souvent depuis en citant l'auteur. « Eh bien, avant que nous y vinssions, c'était une désolation, disait-il. » J'étais tout oreille quand il me parlait de ses semis, de ses pépinières. Neuf aux travaux de la campagne, je l'accablais de questions sur les prix des choses, sur les moyens d'exploitation, et il me parut heureux d'avoir à m'apprendre tant de détails. « Que vous enseigne-t-on donc ?» me demandait-il avec étonnement. Dès cette première journée, le comte dit à sa femme en rentrant « Monsieur Félix est un charmant jeune homme. » Le soir, j'écrivis à ma mère de m'envoyer des habillements et du linge en lui annonçant que je restais à Frapelle. Ignorant la grande révolution qui s'accomplissait alors et ne comprenant pas l'influence qu'elle devait exercer sur mes destinées, je croyais retourner à Paris pour y achever mon droit et l'école ne reprenait ses cours que dans les premiers jours du mois de novembre. J'avais donc 2 mois et demi devant moi. Pendant les premiers moments de mon séjour, je tentais de m'unir intimement au comte et ce fut un temps d'impression cruelle. Je découvris en cet homme une irascibilité sans cause, une promptitude d'action dans un cas désespéré qui m'effrayèrent. Il se rencontrait en lui des retours soudains du gentilhomme si valeureux à l'armée de Condé, quelques éclairs paraboliques de ses volontés qui peuvent, au jour des circonstances graves, trouer la politique à la manière des bombes et qui, par les hasards de la droiture et du courage, font d'un homme condamné à vivre dans sa gentilhommière un Delbé, un Bonchamp, un Charette. Devant certaines suppositions, son nez se contractait, son front s'éclairait et ses yeux lançaient une foudre aussitôt amolie. J'avais peur qu'en surprenant le langage de mes yeux, M. de Mortsauf ne me tuât sans réflexion. À cette époque, j'étais exclusivement tendre. La volonté qui modifie si étrangement les hommes commençait seulement à poindre en moi. Mes excessifs désirs m'avaient communiqué ces rapides ébranlements de la sensibilité qui ressemblent aux secousses de la peur. La lutte ne me faisait pas trembler, mais je ne voulais pas perdre la vie sans avoir goûté le bonheur d'un amour partagé. Les difficultés et mes désirs grandissaient sur 2 lignes parallèles. Comment parler de mes sentiments? J'étais en proie à de navrantes perplexités. J'attendais un hasard, j'observais, je me familiarisais avec les enfants de qui je me fis aimer, je tâchais de m'identifier aux choses de la maison. Insensiblement, le comte se contint moins avec moi. Je connus donc ces soudains changements d'humeur, ces profondes tristesses sans motif, ces soulèvements brusques, ses plaintes amères et cassantes, sa froideur haineuse, ses mouvements de folie réprimée, ses gémissements d'enfant, ses cris d'homme au désespoir, ses colères imprévues. La nature morale se distingue de la nature physique en ceci que rien n'y est absolu. L'intensité des effets est en raison de la portée des caractères ou des idées que nous groupons autour d'un fait. Mon maintien à Clochegourde, l'avenir de ma vie, dépendait de cette volonté fantasque. Je ne saurais vous exprimer quelles angoisses pressaient mon âme, alors aussi facile à s'épanouir qu'à se contracter, quand en entrant je me disais « Comment va-t-il me recevoir ?» Quelle anxiété de cœur me brisait alors que tout d'un coup un orage s'amassait sur ce front neigeux. C'était un qui-vive continuel. Je tombais donc sous le despotisme de cet homme. Mes souffrances me firent deviner celles de Madame de Mortsauf. Nous commençâmes à échanger des regards d'intelligence Mes larmes coulaient quelquefois quand elle retenait les siennes. La comtesse et moi, nous nous éprouvâmes ainsi par la douleur. Combien de découvertes n'ai-je pas faites durant ces 4 premiers jours pleins d'amertume réelle, de joie tacite, d'espérance tantôt abîmée, tantôt surnageant. Un soir, je la trouvai religieusement pensive devant un coucher de soleil qui rougissait si voluptueusement les cimes en laissant voir la vallée comme un lit qu'il était impossible de ne pas écouter la voix de cet éternel cantique des cantiques par lequel la nature convie ses créatures à l'amour. La jeune fille reprenait-elle des illusions envolées? La femme souffrirait-elle de quelque comparaison secrète? Je crus voir dans sa pose un abandon profitable aux premiers aveux. Il lui dit « Il est des journées difficiles. » « Vous avez lu dans mon âme ?» me dit-elle. « Mais comment ?»« Nous nous touchons par tant de points, » répondis-je. « N'appartenons-nous pas au petit nombre de créatures privilégiées pour la douleur et pour le plaisir, de qui les qualités sensibles vibrent toutes à l'unisson en produisant de grands retentissements intérieurs et dont la nature nerveuse est en harmonie constante avec le principe des choses. Mettez-les dans un milieu où tout est dissonance. Ces personnes souffrent horriblement, comme aussi leur plaisir va jusqu'à l'exaltation quand elles rencontrent les idées, les sensations ou les êtres qui leur sont sympathiques. Mais il est pour nous un troisième état dont les malheurs ne sont connus que des âmes affectées par la même maladie et chez lesquelles se rencontrent de fraternelles compréhensions. Il peut nous arriver de n'être impressionnés ni en bien ni en mal. Un orgue expressif, doué de mouvement, s'exerce alors en nous dans le vide, se passionne sans objet, rend des sons sans produire de mélodie, jette des accents qui se perdent dans le silence. Espèce de contradiction terrible d'une âme qui se révolte contre l'inutilité du néant. Jeux accablants dans lesquels notre puissance s'échappe tout entière, sans aliment, comme le sang par une blessure inconnue. La sensibilité coule à torrent, il en résulte d'horribles affaiblissements, d'indicibles mélancolies pour lesquelles le confessionnal n'a pas d'oreille. N'ai-je pas exprimé nos communes douleurs ? Elle tressaillit, et sans cesser de regarder le couchant, elle me répondit « Comment si jeune, savez-vous ces choses ? Avez-vous donc été femme ?»« Ah !» lui répondis-je d'une voix émue, « mon enfance a été comme une longue maladie. »« J'entends tousser Madeleine, » me dit-elle en me quittant avec précipitation. La comtesse me vit assidue chez elle sans en prendre de l'ombrage par deux raisons. D'abord, elle était pure comme un enfant et sa pensée ne se jetait dans aucun écart. Puis j'amusais le comte. Je fus une pâture à ce lion sans ongles et sans crinière. Enfin, j'avais fini par trouver une raison de venir qui nous parut plausible à tous. Je ne savais pas le tric-trac. Monsieur de Morsauf me proposa de me l'enseigner. J'acceptai. Dans le moment où se fit notre accord, la comtesse ne put s'empêcher de m'adresser un regard de compassion qui voulait dire « Mais vous vous jetez dans la gueule du loup !» Si je n'y compris rien d'abord, le troisième jour, je sus à quoi je m'étais engagée. Ma patience, que rien ne lasse, ce fruit de mon enfance, se mûrit pendant ce temps d'épreuve. Ce fut un bonheur pour le comte que de se livrer à de cruelles railleries quand je ne mettais pas en pratique le principe ou la règle qu'il m'avait expliqué. Si je réfléchissais, il se plaignait de l'ennui que cause un jeu lent. Si je jouais vite, il se fâchait d'être pressé. Si je faisais des écoles, il me disait en profitant que je me dépêchais trop. Ce fut une tyrannie de magistère, un despotisme de férule, dont je ne puis vous donner une idée qu'en me comparant à Épictète tombé sous le joug d'un enfant méchant. Quand nous jouâmes de l'argent, ses gains constants lui causèrent des joies déshonorantes, mesquines. Un mot de sa femme consolait de tout et le rendait promptement au sentiment de la politesse et des convenances. Bientôt, je tombai dans les brasiers d'un supplice imprévu. À ce métier, mon argent s'en alla. Quoique le comte restât toujours entre sa femme et moi jusqu'au moment où je les quittais, quelquefois, fort tard, j'avais toujours l'espérance de trouver un moment où je me glisserais dans son cœur. Mais pour obtenir cette heure attendue, avec la douloureuse patience du chasseur, ne fallait-il pas continuer ces taquines parties où mon âme était constamment déchirée et qui emportait tout mon argent? Combien de fois déjà n'étions-nous demeurés silencieux, occupés à regarder un effet de soleil dans la prairie, des nuées dans un ciel gris, les collines vaporeuses ou les tremblements de la lune dans les pierreries de la rivière, sans nous dire autre chose que « la nuit est belle ». La nuit est femme, madame. Quelle tranquillité! Oui, l'on ne peut pas être tout à fait malheureux ici. À cette réponse, elle revenait à sa tapisserie. J'avais fini par entendre en elle des remuements d'entrailles causés par une affection qui voulait sa place. Sans argent, adieu les soirées. J'avais écrit à ma mère de m'en envoyer. Ma mère me gronda et ne m'en donna pas pour 8 jours. À qui donc en demander? Et il s'agissait de ma vie. Je retrouvais donc au sein de mon premier grand bonheur les souffrances qui m'avaient assailli partout. Mais à Paris, au collège, à la pension, j'y avais échappé par une pensive abstinence. Mon malheur avait été négatif. À Frapelle, il devint actif. Je connus alors l'envie du vol, ces crimes rêvés, ces épouvantables rages qui sillonnent l'âme et que nous devons étouffer sous peine de perdre notre propre estime. Les souvenirs des cruelles méditations, des angoisses que m'imposa la parcimonie de ma mère, m'ont inspiré pour les jeunes gens la sainte indulgence de ceux qui, sans avoir failli, sont arrivés sur le bord de l'abîme comme pour en mesurer la profondeur. Quoique ma probité, nourrie de sueur froide, se soit fortifiée en ces moments où la vie s'en trouve et laisse voir l'aride gravier de son lit, toutes les fois que la terrible justice humaine a tiré son glaive sur le cou d'un homme, je me suis dit « Les lois pénales ont été faites par des gens qui n'ont pas connu le malheur. » En cette extrémité, j'ai découvert dans la bibliothèque de M. de Chessel le traité du Trictrac, et l'étudiait. Puis mon hôte voulut bien me donner quelques leçons. Moins durement menée, je pus faire des progrès, appliquer les règles et les calculs que j'appris par cœur. En peu de jours, je fus en état de dompter mon maître, mais quand je le gagnais, son humeur devint exécrable. Ses yeux étincelèrent comme ceux des tigres, sa figure se crispa, ses sourcils jouèrent comme je n'avais jamais vu les sourcils de personne. Ses plaintes furent celles d'un enfant gâté. Parfois, il jetait les dés, se mettait en fureur, trépignait, mordait son cornet et me disait des injures. Ces violences eurent un terme. Quand j'eus acquis un jeu supérieur, je conduisis la bataille à mon gré. Je m'arrangeais pour qu'à la fin, tout fût à peu près égal, en le laissant gagner durant la première moitié de la partie et rétablissant l'équilibre pendant la seconde moitié. La fin du monde aurait moins surpris le comte que la rapide supériorité de son écolier, mais il ne la reconnut jamais. Le dénouement constant de nos parties fut une pâture nouvelle dont son esprit s'empara. « Décidément, disait-il, ma pauvre tête se fatigue. Vous gagnez toujours vers la fin de la partie, parce qu'alors j'ai perdu mes moyens. » La comtesse qui savait le jeu s'aperçut de mon manège dès la première fois et devina d'immenses témoignages d'affection. Ces détails ne peuvent être appréciés que par ceux à qui les horribles difficultés du trictrac sont connues. Que ne disait pas cette petite chose? Mais l'amour, comme le dieu de Bossuet, met au-dessus des plus riches victoires le verre d'eau du pauvre, l'effort du soldat qui périt ignoré. La comtesse me jeta l'un de ces remerciements muets qui brisent un cœur jeune. Elle m'accorda le regard qu'elle réservait à ses enfants. Depuis ces bienheureuses soirées, elle me regarda toujours en me parlant. Je ne saurais expliquer dans quel état je fus en m'en allant. Mon âme avait absorbé mon corps. Je ne pesais pas. Je ne marchais point, je volais. Je sentais en moi-même ce regard. Il m'avait inondé de lumière, comme son « Adieu, monsieur » avait fait retentir en mon âme les harmonies que contient l'Ophélie, ô Philoé, de la résurrection pascale. Je naissais à une nouvelle vie. J'étais donc quelque chose pour elle. Je m'endormis en des langes de pourpre. Des flammes passèrent devant mes yeux fermés en se poursuivant dans les ténèbres comme les jolis vermisseaux de feu qui courent les uns après les autres sur les cendres du papier brûlé. Dans mes rêves, sa voix devint je ne sais quoi de palpable, une atmosphère qui m'enveloppa de lumière et de parfum, une mélodie qui me caressa l'esprit. Le lendemain, son accueil exprima la plénitude des sentiments octroyés, et je fus dès lors initié dans les secrets de sa voix. Ce jour devait être un des plus marquants de ma vie. Après le dîner, nous nous promenâmes sur les hauteurs, nous allâmes dans une lande où rien ne pouvait venir. Le sol en était pierreux, desséché, sans terre végétale. Néanmoins, il s'y trouvait quelques chênes et des buissons pleins de cinelles. Mais au lieu d'herbe, s'étendait un tapis de mousse fauve, crépue, allumé par les rayons du soleil couchant et sur lequel les pieds glissaient. Je tenais Madeleine par la main pour la soutenir et Madame de Mortsauf donnait le bras à Jacques. Le comte, qui allait en avant, se retourna, frappa la terre avec sa canne et me dit avec un accent horrible « Voilà ma vie !»« Ah, mais avant de vous avoir connue, » reprit-il en jetant un regard d'excuse sur sa femme. « Réparation tardive !» La comtesse avait pâli. Quelle femme n'aurait pas chancelé comme elle en recevant ce coup? Quelles délicieuses odeurs arrivent ici, et les beaux effets de lumière, m'écriai-je. Je voudrais bien avoir à moi cette lande. J'y trouverais peut-être des trésors en l'en sondant, mais la plus certaine richesse serait votre voisinage, qui d'ailleurs ne paierait pas cher une vue si harmonieuse à l'œil, et cette rivière serpentine où l'âme se baigne entre les frênes et les aulnes. Voyez la différence des goûts. Pour vous, ce coin de terre est une lande. Pour moi, c'est un paradis. » Elle me remercia par un regard. « Et Glog, fit-il d'un ton amer, « ici n'est pas la vie d'un homme qui porte votre nom. » Puis il s'interrompit et dit, « Entendez-vous les cloches d'Azay? J'entends positivement sonner des cloches. » Madame de Mortsauf me regarda d'un air effrayé. Madeleine me serra la main. « Voulez-vous que nous rentrions faire un tric-trac ? » lui dis-je. « Le bruit des dés vous empêchera d'entendre celui des cloches. »